Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Souquet, défenseur français évoluant à Chicago en Major League Soccer. Avec lui, nous avons évoqué son parcours de joueur, ses expériences à Nice et Montpellier, et le plaisir d'avoir joué sous les ordres de Lucien Favre. Nous sommes également revenus sur son arrivée aux États-Unis, son acclimatation à un nouvel environnement très différent, sur les habitudes américaines, sur la saison avec Chicago et sur le niveau du championnat américain. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Arnaud Souquet. Bonjour Arnaud Souquet, bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour.
Alors Arnaud, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous donner ta Madeleine de Proust, ton meilleur souvenir foot, en tant que joueur, en tant qu'ado, en tant qu'enfant, en tant que spectateur, téléspectateur, acteur, tout est possible.
Le premier et le plus grand, pour l'instant, moment de foot, ça reste la Ligue des Champions que j'ai eu la chance de jouer avec Nice, que ce soit là-bas, à Naples et à domicile contre Naples, du coup, en championnat, même si avant on avait joué le tour qualificatif contre l'Ajax, qui avait été un moment où j'avais marqué, donc c'était vraiment un très grand moment. Et puis après, bah forcément, les premiers souvenirs, c'est les premiers souvenirs de gamin quand tu commences le foot avec tes potes en amateur, on va dire, même si à ce moment-là, c'est même pas de l'amateur, c'est vraiment du loisir et c'est ces moments-là qui restent gravés avec tous les tournois que tu peux avoir en salle. Tous les amateurs de foot se rappelleront de ça, se lever très tôt pour aller faire des tournois en salle l'hiver, faire des tournois d'été sur des grands terrains où tu mangeais des frites et des merguez quasiment tout le week-end. Donc, c'était bien, on rigolait bien.
Alors Arnaud, si je te dis qu'à 31 ans, tu as déjà eu plusieurs vies dans le foot, de par ton parcours, tu as connu un centre de formation assez réputé, même s'il l'est encore plus aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque, mais c'est quand même un centre de formation réputé. Tu as connu des moments hauts, des moments plus bas, tu as connu le chômage, les stages UNFP, tu as connu la deuxième division, tu as connu la première division, de la Ligue des Champions, de la Belgique, l'étranger, la Ligue Europa, tu as connu maintenant les États-Unis. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses en l'espace de 15 ans de carrière, un petit peu plus de 15 ans, puisque quand tu rentres en centre de formation à Lille, tu as 15 ans, je crois, de mémoire, 14-15 ans.
Mon premier contrat pro à 17 ans et quelques à peu près.
Est-ce que aujourd'hui, tu te retournes quand même de temps en temps sur ça ou en fait, juste t'avances et tu te laisses guider?
Alors j'avance, oui, forcément, parce que je suis quand même beaucoup tourné sur l'avenir et j'ai ce côté à avoir encore des objectifs assez élevés dans ce que je fais. Et je pense que le jour où j'en aurai plus, où je serai plus en capacité de les atteindre, bah, ce sera peut-être le moment de se dire bah, on arrête. Mais des fois, oui, j'ai ces débats un peu ou ces retours, que ce soit avec ma compagne ou même mes agents, de me dire oh, putain, mais t'imagines derrière et tout, ce qu'on a vécu, par où on est passé, tous les moments difficiles, et de voir qu'aujourd'hui, bah, avec forcément un petit peu de chance aussi, parce qu'il faut, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il y a eu un petit peu de réussite, du travail forcément, mais il y a eu de la chance, et de se dire qu'on en est arrivé là, et que des fois même, je ne me considère pas comme un top joueur, mais je pense que j'ai eu une belle carrière. Mon agent me dit, mais attends, mais tu as eu un peu plus qu'une belle carrière quand même, parce que t'as plein de joueurs qui ne font pas plus de 100 matchs en Ligue 1. Ma femme, surtout, elle me le dit souvent, elle me dit, ça aurait pu être pire aussi, parce que, faut pas se le cacher, on a plein d'amis qui ont eu 1 ou 2 ans et qui, depuis, on ne sait pas trop ce qu'ils sont venus. Donc, c'est vrai que c'est difficile de rester dans la continuité à haut niveau, pour moi et pour ce que je transmettrai à mes enfants, ou ce qu'on essayera de transmettre, en tout cas, avec ma femme et à nos enfants. C'est ça, c'est de se dire qu'il faut, quand tu travailles, que t'es toujours récompensé. Après, chacun sera récompensé à son échelle, mais en tout cas, on essaie de tout donner au maximum pour que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'on sait que chaque année pas, chaque saison faite, on se rapproche de la fin. Donc, c'est pour ça que cette année, du coup, je vais faire 2 saisons en une.
On va y revenir, puisque oui, effectivement, toi, t'as pas eu le droit à la très longue pause hivernale. T'as quand même enchaîné Ligue 1 avec une petite pause quand même du côté de Montpellier.
On a eu 15 jours pour la Coupe du Monde, 10 jours un peu moins.
Et derrière, t'as enchaîné direct avec la saison, la deuxième partie de la saison en MLS. Ce qui fait que tu vas avoir une saison bien bien dense. Tu vas être, je pense, tu vas dépasser les 60 matchs à l'aise, je pense. Pas loin de ça, en tout cas. Et puis dans ton parcours, quand même, ce qui est notable, c'est que, allez, en l'espace de 2 ans quasiment, tu passes d'un joueur de première division, on va le dire dans le global, à chômage. Et 2 ans après, avec à nouveau un espace de 2 ans, tu passes de chômage stage UNFP à titulaire à Nice, et en 3 ans à Ligue des Champions, en fait. C'est que t'as le rebond qui est très fort et très vite, en fait.
Pour remettre dans le contexte, en fait, c'est que j'étais en fin de contrat avec Lille et du coup, ils m'ont pas renouvelé. Je pensais trouver un club et là, on se rend compte que c'est difficile. Donc, je me retourne vers le stage de NFP. D'ailleurs, je leur passe un petit bonjour parce qu'en ce moment, ils ont réattaqué. Là, c'est reparti. Donc, c'est important ce qu'ils font pour les joueurs, en tout cas pour les aider. Et ceux qui viennent, je pense qu'ils sont compétitifs et ils ont envie de retrouver. Donc pour ça, c'est bien. Après, même après le stage, moi, je suis allé jusqu'au bout du stage. Je suis allé jusqu'en août et j'avais toujours pas de club. Donc, j'ai repris en amateur en prenant une licence à Drancy. Je suis allé à Drancy au Roger. Et pareil, je remercie les éducateurs de m'avoir permis ça parce qu'on avait un deal aussi à ce moment-là qui était que moi, je reviens en tant que joueur, je prends une licence classique. Mais par contre, si j'ai une opportunité d'aller plus haut, même en plein milieu de septembre, d'octobre ou de novembre, vous me laissez, en gros, je m'en vais. Vous ne m'en tenez pas, ils ont été d'accord. Et c'est vrai que l'opportunité arrivait très vite en octobre, je crois, au Poire et Survie, où il y avait un coach qui avait besoin de moi. Après, c'était surtout lié au contrat, en fait, parce que quand tu es un certain nombre d'années pro, tu ne peux pas signer n'importe quel contrat, même en amateur. Donc, c'est vrai que ça aussi, potentiellement, ça peut bloquer des clubs de national. Donc, du coup, je suis allé au Poire et Survie. En fait, on fait une bonne saison, puisqu'on fait la Coupe de France, on va jusqu'en quart, on se fait éliminer par Auxerre, qui cette année-là va jusqu'en finale. On se maintient, et bon, après, moi, dès février, j'ai des contacts avec Dijon, qui souhaitent que je vienne. Et en fait, j'arrive à Dijon en tant que numéro 2. Au final, je joue beaucoup, quasiment tous les matchs, on fait la montée. Et en fait, j'aurais dû rester à Dijon, parce qu'on est pour parler en prolongation de contrat avec le président. Et en fait, pendant justement cette trêve de juin, il y a Nice qui vient avec Monsieur Julien Fournier, et notamment Claude Puel de l'année d'avant, en fait, qui m'avait déjà vu et qui m'avait déjà vu quand j'étais au Poire et Survie. Ils avaient déjà hésité avant que je vienne à Dijon. Et au final, ils avaient laissé une année de suivi, où ils avaient recruté quelqu'un d'autre. Et en fait, à ce moment-là, je viens en tant que numéro 2 de Ricardo Pereira. Et puis on a Fab qui arrive, et là tu commences à rentrer dans un autre monde. Moi qui sors du national du Poire et Survie où personne ne sait où c'est, je me retrouve à jouer avec Dante, Balotelli, Belanda, plus tous les autres après qu'on connaît, avec qui on a fait une saison exceptionnelle où on finit 3e avec un record de points qui n'a même pas été encore battu pour un 3e, le record du point du club, enfin on a beaucoup de records on va dire cette année-là et on finit que 3e. Mais on avait devant nous deux écuries de fou. On avait Paris et on avait bien sûr Monaco qui cartonnait à cette époque-là, enfin qui a fait surtout une phase retour incroyable parce qu'à la phase d'aller, il faut remettre dans le contexte, on est premier, on est champion d'hiver avec presque 6 ou 7 points d'avance, hein, je crois, sur Monaco. Hein, donc s'imagine, et on fait une phase retour un petit peu moins bonne que la phase d'aller, mais on ne fait pas non plus une phase retour catastrophique parce qu'on finit. On va à Lyon pour la dernière journée, on a plus de 10 points d'avance sur Lyon au dernier match. Quoi. Donc, il faut quand même remettre dans le contexte. Et derrière, on découvre l'Europe, en fait, avec un coach aujourd'hui qui, pour moi, a été l'un des meilleurs coachs que j'ai pu avoir. Un groupe qui a été exceptionnel, qui a super bien tourné avec des joueurs, surtout d'où on est parti, parce qu'on a eu les recrues très, très tard et on ne s'y attendait pas.
Avec beaucoup d'inconnus, d'ailleurs, d'inconnus ou de pas trop connus. Il y avait les têtes de gondole, mais il y avait aussi des joueurs à côté qui étaient beaucoup moins connus, en fait.
Et je pense que justement, c'est ce qui a fait la symbiose, c'est que déjà, donc, sur les têtes de gondole qui sont venues, ça permet de souder les groupes. Et puis au-delà de ça, t'avais quand même un groupe qui sortait d'une saison où ils avaient fini 5e. Hein. Donc c'était pas non plus des inconnus au bataillon, mais t'avais des joueurs qui tenaient la route. Et puis après, je pense que quand on a une équipe qui a pris confiance, même si l'année où j'arrive, on commence avec un drame énorme par rapport à ce qui s'était passé à Nice. me rappellerai toute ma vie, moi, cette première journée là, c'était vraiment horrible. Et de toute façon, ça a marqué cette ville et ça a marqué tous les habitants et tous les joueurs, enfin, nous les premiers, hein, je pense, hein, comme tout le monde. Et c'est vrai que ça, c'est parti de là et presque, ça a été presque le plus beau cadeau qu'on ait pu faire à ces gens-là, même si dedans, peut-être, il y avait des passionnés de foot ou pas. En tout cas, peut-être, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait pu faire à cette ville et redonner le sourire à ces gens. Je pense que ça a été le plus important aussi dans cette année, dans cette année-là. Et je pense que ça reste, aujourd'hui, ça reste le plus beau souvenir et la plus belle année en soi sportive. Parce que c'est vrai que dans une carrière, tu as des joueurs qui gagnent des titres. Tu n'en as pas beaucoup. Il y en a qui en gagnent, mais pas tous. Moi, par exemple, j'en ai pas gagné. Enfin, j'en ai pas gagné. Si, j'ai été champion de France avec Lille, mais je le vis pas comme un acteur vraiment à 100%, pas actif de ce titre-là. Mais je pense que ça reste. Souvent, tu fais une, deux, trois années vraiment exceptionnelles où dans ta carrière, et les autres années, elles peuvent être différentes. Moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître la descente aucune fois, et pourtant, j'en ai fait des saisons. Mais c'est vrai que je me suis même quasiment battu quasiment à chaque fois pour être dans le top 8, top 6. Donc, c'est des belles saisons. Hein, donc c'est important, et je pense qu'il faut, c'est ce qu'on garde, et c'est les souvenirs qui resteront de toute façon.
Mais tu vois, je regardais l'effectif là quand on parlait de. Bon, il y avait les fameuses têtes de gondole, et puis autour, il y avait des joueurs moins connus. Tu vois, je regardais un petit peu défensivement. Donc, il y a Walter Benitez qui arrive, je crois, l'été en même temps que toi. Donc, qui n'est pas spécialement connu quand il arrive non plus.
Il n'est pas numéro 1.
Non, c'est ça. C'est ça. Je regarde en défense, tu as Maxime Lemarchand, Ricardo Pereira, Dalbert, qui n'était pas non plus. Voilà, Dalbert et Ricardo, ce n'est pas des mecs connus, quoi.
Dalbert et Ricardo étaient prêtés par. C'est les Portugais, je crois, de mémoire. Et je peux te dire que des latéraux droits, je pense que c'est le meilleur latéral droit que j'ai eu en concurrence, vraiment à me dire ouais, je comprends pourquoi je suis numéro 2 et que même si je donnais le maximum pour jouer, et au final j'ai joué, bon, j'ai profité aussi de ses blessures ou ça, et puis même quand il est revenu au final il a pas rejoué la tarot parce qu'il jouait devant moi, on a fini l'année où en fait on jouait tous les deux, donc j'étais quand même performant, mais lui c'est vraiment le joueur moi à droite à mon poste où je me suis dit c'est vraiment quand même un sacré joueur, mais puis de l'autre côté on avait l'autre aussi, c'était un animal l'autre à droite, hein, d'Albert, c'était impressionnant. D'ailleurs, après, il signe à l'Inter, il n'y a rien d'illogique. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est plus compliqué. Ça, après, c'est des carrières, c'est des choses.
Ouais, mais après, c'est aussi. C'est comme souvent, c'est là que tu vois le travail de l'entraîneur, en fait. C'est comment progressent les joueurs. Enfin, je veux dire, Ricardo Pereira était sans doute un bon jeune de Porto, qui avait des qualités, il n'y a pas de problème. Mais avec Favre et le jeu de Favre, parce que ce n'est pas simplement Favre, c'est aussi tout ce qu'il a mis en place et le jeu qui exaltait les qualités des joueurs de l'effectif. Qui ont fait que ces joueurs-là ont progressé et peut-être qu'après ils trouvent un environnement qui est différent, où il n'y a pas le même type de football, où il n'y a peut-être pas la même approche du football, entre guillemets, et ça devient plus dur pour eux. C'est là que tu vois le travail de l'entraîneur.
Oui, bien sûr. Puis je pense qu'il y a un facteur qu'on ne maîtrise pas, c'est la confiance du joueur aussi. Hein. La confiance dans un groupe. Pour recontextualiser dans cette saison-là, je m'en rappelle encore très bien parce que souvent on regardait le Canal Football Club avec des gens en rigolant sur Canal. Et souvent, les animateurs, ils nous disaient, ils se demandaient des sujets, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, Nice est mené et revient, un jour, ça va leur porter défaut, ça. Et au final, nous, on le vivait intérieurement, on avait une telle. C'était limite, après, ça pouvait être interprété comme de l'arrogance, presque, hein, par certains gens, alors que ce n'était pas du tout le cas, c'était plus de la confiance en soi. On pouvait rentrer des fois dans des vestiaires en perdant 2-0, se dire, mais les gars, ce n'est pas grave. On va revenir et tout, c'est sûr, on va revenir à 2-2. Et c'est ce qui se passait cette saison-là. On a remonté des scores quasiment assez souvent. On a souvent été mené, hein, sur cette saison-là. Et à chaque fois, on est revenu. Donc, c'est que ce groupe, il avait du caractère. Et c'est vrai que ça pouvait être interprété comme de la ronde. On voyait ces débats-là de se dire, ouais, mais ils devraient peut-être essayer d'arrêter d'être menés. Ça leur porte préjudice. Un jour, ça va s'arrêter. Et au final, ça a duré toute la saison. Et on a fini la saison comme ça. Alors, oui, on n'a pas été deuxième ou premier. Mais déjà, finir troisième pour un club comme Nice avec ces joueurs-là. Sur des mecs que personne ne connaissait, et la saison qu'on avait faite, on s'était régalé, c'était une croissance.
Moi, je trouve que le Nice de Favre est sans doute esthétiquement l'une des plus belles équipes que j'ai vues dans les années 2010 en France. Je trouve qu'il y avait quelque chose de. Déjà, les joueurs étaient souvent en mouvement, le ballon se voyageait très vite. Il y avait quelques touches de balle, parce qu'il y avait des joueurs qui aimaient bien le ballon, etc. Mais. Il n'y avait pas de tripoteur, entre guillemets, qui en faisait trop, etc. Les échanges se faisaient très rapidement. On sentait qu'il y avait cette volonté de mettre toujours du mouvement à travers la balle, mais à travers les joueurs aussi. Et donc, quand tu as ça face à toi à l'écran, en fait, c'est tout de suite, on peut le rapprocher de la danse ou de ballet de danse, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique. Et sincèrement, il y a assez peu d'équipes dans les années 2010 en France qui m'ont donné cette impression de beauté, au-delà même des résultats. Hein.
Moi, cette année-là, j'ai trouvé le Monaco très fort aussi parce qu'ils avaient des paires, en fait, qui étaient très forts, qui fonctionnaient très fort. Il y avait des paires qui fonctionnaient beaucoup, notamment à gauche et à droite. Parce qu'à gauche, tu avais Benjamin Mendy avec Thomas Lemar. Et à droite, tu avais
Sidibé et Bernardo.
Mais et puis devant, tu avais des monstres aussi. C'est une belle équipe. Elle était structurée, cette équipe. Elle avait une équipe beaucoup plus d'expérience, peut-être plus roublard. Et parce qu'il faut rappeler quand même qu'à ce moment-là, Mbappé était que jeune. Hein, il jouait même pas. Hein, il était remplaçant. Hein, donc ils avaient encore lui qui était sur le banc. Hein. C'était bon, c'était pas le Mbappé de maintenant, mais ça restait quand même. À partir de janvier, on a commencé à voir le Mbappé que c'était et ça tournait pas mal. Mais pour rien te cacher, il y avait aussi après du travail. Hein. Moi, j'ai le souvenir quand je suis arrivé à Nice de Dijon, les premières. En un mois, je crois que j'avais perdu 2 kilos, je crois, un truc comme ça. Mais on s'entraînait 3 heures par jour. Nos veilles de match, elles duraient 1h40, 2h des fois. On avait des joueurs qui arrivaient, ils disaient, mais 2 heures de veille de match, c'était fou. Et c'est vrai que pour des joueurs, ça restait énorme. Mais on avait 30 minutes de coup de pied arrêté, veille de match. En fait, il laissait rien au hasard. Et il nous avait prévenu d'ailleurs. Quand il est arrivé, il nous avait dit, les gars, au plus vite, vous allez comprendre ce que je veux, au plus vite, les séances, elles se raccourciront. Bon, la première année, il n'y a rien qui s'est raccourci parce que n'arrivait pas. C'était long, mais on prenait du plaisir. On était sur le terrain, on était contents. Après, en match, on se sentait bien et on travaillait. Et c'est vrai que la deuxième année où il a été là, bon, ça a été une année un petit peu plus difficile aussi, mais il y a des joueurs qui sont partis, c'était différent. Les séances, elles ont été un petit peu plus raccourcies aussi. Mais on avait, on s'entraînait quasiment 3 heures par jour sur le terrain. On y était. Déjà, on avait beaucoup de séances vidéo, beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques. On répétait beaucoup. Donc après, il n'y avait pas de secret. Hein. Je veux dire, c'est pas venu, on s'est pas tombé du ciel comme ça, sans qu'il ne rien se passe.
Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est une méthodologie de travail, effectivement, qui avait d'ailleurs porté ses fruits en Allemagne pour Lucien Favre, où on avait retrouvé pas mal de principes de son Gladbach dans l'OGC Nice. D'ailleurs, qui était presque une équipe, pour le coup, de Bundesliga, je trouve, l'OGC Nice, qui n'était pas le morphotype d'équipe de Ligue 1, je trouve, qui ressemblait plus à une équipe de Bundesliga, en tout cas, dans l'ambition.
Ouais, c'était assez ouvert, il y avait du spectacle, en tout cas, hein, quand on était au stade, il y avait beaucoup de buts. Bon, alors, on en concédait aussi, mais on était quand même beaucoup tourné vers l'attaque. On a très rarement fermé le jeu sur cette année.
Je fais un petit flashback. Tu as été post-formé, pour le coup, à Lille. Maintenant, avec le recul, je vais pas te demander ce que tu en as pensé sur le moment, mais maintenant, avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte à un centre de formation quand tu es ado en termes de, je sais pas, peut-être déjà de structure, de développement si tu devais résumer un peu ce qu'un centre de formation apporte à un gamin de 15 ans, un ado.
Alors, il y a plein de bons côtés parce que ça t'apprend le métier réellement, parce que tu fais beaucoup de... C'est tes premiers pas dans la musculation, c'est tes premiers pas dans le travail tactique, dans le travail technique, dans le travail physique aussi, parce que tu développes ton corps en termes de capacité physique, je parle, hein, pas en termes de musculation pure, pas en termes de course, en termes de répétition. Tu t'entraînes tous les jours, voire même 2 fois par jour des fois. Nous, on s'entraînait le mardi et le jeudi, c'était 2 fois. Donc après, tous les jours et match le week-end. Ça, pour moi, c'est le côté positif parce que c'est ce qui forme le joueur et ce qui après crée... Ça te permet de faire aussi un premier tri. Hein. Tu as des joueurs qui n'arrivent pas à supporter, qui se blessent souvent. Et ça, c'est un peu le côté négatif, on va dire, de la chose. C'est que chaque année, bah, tu voyais des joueurs partir et des fois, ça pouvait être tes potes. Et la deuxième chose négative aussi, c'est un peu un côté très personnel parce que tu te bats avec d'autres joueurs pour sortir, en fait. Mais que ça touche pas que des générations de ton même âge, en fait. C'est que ça touche même des générations au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire que le mec d'en dessous, il peut aller chercher le mec 2 générations au-dessus s'il est meilleur, en fait. Bah moi, je voyais tous les 6 mois, j'ai commencé en saison nationale, 6 mois après, je suis monté en 17, en 18 ans, et 6 mois après, donc l'année d'après, je suis monté en réserve. Pourtant, je venais d'avoir 16 ans et demi, je jouais en réserve déjà. Et c'était la CFA à l'époque où tu jouais, même si elle est encore un peu comme ça maintenant, mais c'est pas vraiment le cas. Nous, on allait jouer à Aubervilliers, on allait jouer à Drancy, on allait jouer. Enfin, je veux dire, ça tapait, hein. Tu allais jouer en CFA, tu joues contre des mecs, c'est des adultes, c'était pas facile. Et ça, je pense que c'était vraiment la beauté aussi de la réserve, c'est que c'était une réserve qui était compétitive. Donc, les joueurs qui sortaient, ben forcément, ils étaient performants aussi derrière parce qu'ils découvraient autre chose que le foot bling-bling que tu peux avoir en ligne. Et voilà, après, tu as des centres. Nous, par exemple, Lille, on savait que c'était un centre où tu travaillais beaucoup. Il y avait beaucoup de valeurs, un peu peut-être comme Lens, mais comme dans les gens du Nord, on va dire en général, je pense, qui étaient très attachés au travail, très attachés à ce que tu faisais. Mais voilà, je pense que le centre de formation pour un joueur de foot, c'est une première étape. Ça te donne une idée si tu es prêt ou pas à passer. Si tu galères déjà, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas, hein, parce que tu as plein de joueurs qui n'ont pas fait toutes les formations et qui sont sortis. Mais ça peut déjà te donner une petite idée de te dire bon, bah, peut-être que ça sera difficile, je jouerai peut-être qu'en national, peut-être qu'en Ligue 2 maximum. Voilà, ça te donne une première idée. Après, c'est dommage parce que. Enfin, c'est dommage, mais en même temps, c'est la réalité du métier. Tes meilleures années en termes de jeu, de football, de plaisir, tu les vis avant, en fait. Hein. Tu ne les vis pas au centre de formation. Au centre de formation, ça commence à être... Alors, tu les vis encore parce que tu as des moments très intimes avec tes joueurs, avec tes potes et tout. Et ça devient très sérieux. Hein. Tu commences à être formé à un métier. Hein. Donc, il ne faut pas se cacher. Hein. Moi, j'entends plein de fois, oui, j'aimerais bien que mon joueur soit joueur de foot, j'aimerais bien qu'il réussisse. Parce que les gens, en fait, ils voient la finalité. Ils voient les joueurs en Ligue 1 qui gagnent très bien leur vie ou les joueurs en Ligue 2 qui gagnent très bien leur vie, surtout dans le monde de maintenant. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais bon, la réalité, c'est que moi, par exemple, sur la génération 92, à être sorti, on est 2. Une génération de peut-être de, de 15.
Et qui est l'autre ?
C'est Adama Soumaoro. Donc voilà, donc, tu vois, pour te donner une idée, hein, c'est, on n'est pas 100 000. Hein.
Il y a un détail que tu as dit qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un peu deux écoles de pensée là-dessus maintenant. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont retiré leurs réserves pour passer simplement au niveau U19. Et donc là, pour le coup, quand tu es en U19, tu joues contre des U19, donc contre des gamins de ton âge. Et tu as l'école, moi qui suis pas mal imprégné, notamment, par exemple en Italie, le niveau en dessous de l'équipe première, c'est la Primavera, c'est de U19. Donc c'est pareil, c'est des compétitions de jeunes, sauf maintenant, il y a quelques clubs qui vont commencer à avoir, il y a la Juve qui a commencé à avoir une U23 en troisième division, mais c'est la seule pour l'instant. Il y a peut-être d'autres grands clubs qui vont arriver à faire ça, mais pour l'instant, c'est la seule. Et il y a une école différente que je connais bien, l'école néerlandaise, où ils ont décidé d'ouvrir pour certains clubs la réserve qui joue contre, c'est un peu comme en France, des professionnels. Mais eux, c'est au deuxième niveau néerlandais, donc c'est déjà le niveau juste en dessous du top niveau. Toi, tu trouves que c'est important de jouer très jeune déjà contre des adultes ?
Si on a un exemple peut-être à tirer, et je pense qu'il faudrait s'orienter vers là si tu veux. Parce que je pense que le problème de mettre que des réserves pro, par exemple comme ça se fait des fois en Angleterre ou même ici, aux États-Unis, c'est que tu restes dans ton cocon réserve professionnelle. Donc, ok, tes joueurs, ils sont formés, ils vont jouer contre des joueurs qui ont les mêmes, potentiellement la même formation. Mais tu ne te frottes pas à aller jouer face à des mecs, je vais exagérer, mais qui vont te dire écoute, moi, je ne suis pas pro, viens encore une fois, je vais te casser ta jambe, ou j'exagère, hein, mais c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et par contre, voilà, ça te forme aussi mentalement et physiquement. Et ça, je pense que c'est un problème. Jouer qu'avec des U19, le problème, c'est que le gap entre les U19 et les pros, il est trop important. Tu n'as pas que des joueurs qui sortent à 19 ans, tu n'es pas formé pour être professionnel. Moi, je tendrais plus vers le modèle espagnol, où je garderais la réserve, mais par contre, j'autoriserais les montées jusqu'à la deuxième division. Parce que si tu autorises les montées, ça veut dire que déjà, tes équipes pros, elles peuvent potentiellement encadrer des jeunes joueurs avec des joueurs de CFA ou de national confirmés. Alors, ils ne gagneront pas forcément ce que les joueurs gagnent, mais ils gagneront peut-être plus que s'ils restent dans leur club de national. Donc, tu pourrais construire une équipe déjà qui est plus sérieuse. D'autoriser la montée, ça te laisse un challenge. Parce que là, aujourd'hui, en CFA, c'est que tu n'avais que les descentes. En fait. Ton niveau maximum, c'était la CFA. Tu ne pouvais pas aller plus haut. Et il y a des fois, on ne va pas se mentir, tu pouvais jouer la montée. Si tu avais vraiment envie, tu l'as joué. Alors, ce n'était pas l'objectif du club. Parce que l'objectif, c'est qu'une fois que le jeune il est bon, tu l'envoies plus haut. Mais à des moments, juste te dire que tu peux te battre, peut-être tu vas aller jouer des années. Il y a des années, imagine, ton équipe, elle a cartonné 2 ans, elle se retrouve en Ligue 2. Excuse-moi, en Ligue 2, tu fais des matchs professionnels. Hein. Alors oui, ça demande plus de coûts. Mais moi, je trouve en termes de bénéfices, et puis tu verras que tu n'auras peut-être pas non plus 100 000 équipes pro qui vont monter en Ligue 2 parce que ça reste difficile. Donc peut-être maximum, elles iront en national. Mais bon, à un moment donné, il faut que tu te frottes à des joueurs qui sont au-delà du. Il faut que tu découvres d'autres footballs que le côté professionnel des mecs qui s'entraînent une fois par jour, après qu'ils rentrent chez eux et qui ont la qualité le week-end pour switcher. Quand tu es jeune, tu n'as pas cette qualité-là. Arriver à switcher complètement et te dire bon, ça y est, on est sorti de la semaine d'entraînement, maintenant c'est les matchs et tout. Tu vois que ce côté professionnel de je m'entraîne une fois par jour, je gagne bien ma vie, je rentre chez moi, il y a de belles voitures, de belles maisons. Voilà, c'est tout le côté qui fait partie de ce milieu-là, mais qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je veux dire, les joueurs qui sont là, tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont obtenu avec leur sueur et en travaillant. C'est pas tombé du ciel pour la plupart, hormis forcément, mais des Mbappé, tu en as un par décennie ou par encore même plus. Donc, je veux dire, pas tout le monde sera Mbappé et pas tout le monde réussira autant que lui. Mais tu en as plein qui. Tu peux très bien réussir dans le foot sans aller jusqu'à être Mbappé ou gagner ce qu'il gagne. C'est important, je pense. Moi, je trouve bloquer les réserves, c'est pas la bonne solution.
Ouais, je suis d'accord. Sauf si elles sont déjà à un très haut niveau comme aux Pays-Bas.
Tu la fais pas monter en Ligue 1 dans tous les cas, mais déjà, tu verras que si tu la laisses monter jusqu'en Ligue 2, je suis pas sûr que tu aies énormément de réserves qui aillent en Ligue 2 déjà.
Dans ta carrière, il y a un entraîneur que tu as retrouvé à deux endroits, à Dijon et à Montpellier. Olivier Dalloglio qui est venu dans ce podcast-là il y a un an et demi, je crois, de mémoire, quand il était encore à Brest. Pour le coup, c'est un entraîneur qui a une idée de football qui, je trouve, allait bien avec tes qualités, qui allait bien avec les joueurs techniques, qui allait bien avec les joueurs de mouvement, qui allait bien avec les joueurs qui prennent l'espace, qui ont créé de l'espace. Qu'est-ce qui t'a apporté ce coach que tu as connu en plus à deux moments différents ? C'est-à-dire, le premier coup, c'est le rebond, le début de ton rebond, enfin, pas le tout début, parce qu'il y a le pour et survie avant, mais. T'es dans le rebond et ensuite t'es déjà un joueur beaucoup plus confirmé de Ligue 1.
Non, après je pense que tu l'as bien résumé. Il avait cette qualité-là. Je pense que c'était un. Alors j'aime pas utiliser le mot formateur ou post-formateur parce que c'est un peu plus que ça quand tu es avec les professionnels. Mais il avait ce passage-là qui pouvait coller pour des jeunes, pour un groupe assez jeune avec pour réussir à les emmener un peu plus haut et aider ces joueurs-là à réussir et à travailler. C'est vrai qu'il avait toujours été une philosophie tournée vers le foot, le ballon, on va dire en général, moins vers. Vers d'autres qualités que d'autres coachs ont, mais il était plus tourné vers le ballon, vers le travail technique. Après, la différence, c'est qu'à Dijon, tu as joué la montée et je pense qu'il avait un groupe qu'il a réussi à fédérer et ça s'était bien passé. C'est passé, tu as joué la montée. À Montpellier, il fait 6 premiers mois exceptionnels. Enfin, on fait 6 premiers mois exceptionnels. Et après, pour une raison qu'on, je pense qu'on, des fois que tu peux pas expliquer, on ne sait pas pourquoi, ça, il y a une cassure, ça fonctionne un peu moins. Et après, on part sur un nouveau cycle avec un peu plus de jeunes. Et là, je pense que l'erreur, elle a peut-être été faite là, à ce moment-là, de trop vouloir mettre de jeunes d'un coup. En Ligue 1, on se rend compte que c'est difficile, il faut que tu puisses les encadrer, les aider. Et je pense que sur certains choix, il s'est peut-être un peu trompé. Après, ça peut arriver, hein. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Et je pense qu'il rebondira, et en tout cas, je lui souhaite. Maintenant, on apprend tous de ses erreurs. Et je pense que la deuxième, la Montpellier a été plus difficile parce que je t'ai dit, on n'était pas bien, on n'avait pas des bons résultats. Ça a touché beaucoup le président aussi. On sortait de l'échec de Média Pro. Donc, il y avait l'argent en jeu, faut pas se le cacher non plus. Aujourd'hui, moi, je t'ai dit, Montpellier, ça reste un club qui m'a beaucoup marqué par sa gestion et par la qualité des gens qui sont en poste dans ce club-là. Et je pense que ça reste très rare dans le foot et presque, il faudrait faire un reportage sur ce club-là parce que je pense que c'est un des derniers qui fonctionne peut-être de cette façon-là, qui est très professionnel, mais à la fois qui est très familial d'un côté où tu te dis que, pour l'instant, c'est un des seuls, ouais, encore, je pense, à fonctionner un peu dans ce style-là. Ils sont bien comme ils sont, d'ailleurs.
Oui, ben j'en avais parlé avec Laurent Nicolin qui était venu dans ce podcast aussi, sur le côté familial, parce que c'est vraiment ce qui marque. Après, ça a beaucoup de bons côtés. Ça peut avoir des moins bons côtés quand les gens viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que pour s'intégrer à un club qui est très familial, qui est habitué à travailler tous ensemble avec les mêmes personnes depuis longtemps, si tu as des idées un petit peu différentes ou des manières de fonctionner un peu différentes, bah parfois, certains nouveaux, ça peut être des techniciens, ça peut être des membres de staff, ça peut être des joueurs, peuvent avoir un peu du mal à se retrouver là-dedans, en fait. Si tu partages pas ce truc-là, ce côté-là, ça peut être un peu plus difficile.
Ouais, bon, après, je veux dire, quand tu signes à Montpellier, tu sais aussi où tu signes et tu sais pourquoi tu signes. Aujourd'hui, ce club a toujours été réputé pour avoir à sa tête des présidents, notamment un qui, malheureusement, n'est plus. Et c'était sa date d'anniversaire un peu il y a quelques jours. Et je pense que tout le club avait une pensée pour lui, et notamment le président actuel. Je pense qu'il avait à sa tête deux personnes quand même, pas qui sont gueulantes, mais qui savent te dire les choses quand il faut te les dire. Et je pense que c'est la grosse qualité de ce club. Aujourd'hui, tu as beaucoup de strass, beaucoup de paillettes dans le foot où on n'ose pas se dire les choses, où des fois, on se tape un peu dans le dos sans vraiment être franc, du collier, se dire les choses. Et je pense que ce club-là a cette capacité à se dire les choses vraiment en face. Et par contre, après, une heure après, être capable d'aller manger avec toi et de rigoler. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont en capacité de te dire si tu es nul, bah, tu es nul. Quoi. Ils te le diront en face, ils prendront pas de pincettes. Et je pense que à un moment donné, ça fait un peu du bien aussi. Je veux dire, même pour les joueurs, on peut pas toujours être cajolé ou ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, je pense qu'ils ont cette capacité-là. Alors après, oui, amener du nouveau, ça peut être difficile, c'est vrai. Mais je pense que dans un environnement où tu te dis les choses et quand tu arrives à Montpellier, tu le sais. Maintenant, je pense que c'est une question de contexte qui a fait que ça a peut-être pas trop marché non plus. Ça a été plus difficile et voilà. Et aujourd'hui, je suis très content que le club aille mieux et qu'il se soit sauvé déjà premièrement. Et je pense que la personne qui est revenue, bah, c'est tout l'exemple, tu vois, de ce club qui fonctionne plutôt bien. Parce qu'ils ont décidé de partir sur autre chose, sur une autre idée. Et je pense qu'ils ont eu l'intelligence et la capacité de se rendre compte que peut-être c'était trompé et de faire revenir peut-être la seule personne qui aurait pu, qui les a sauvés, parce que maintenant on connaît le résultat final, mais qui aurait pu les sauver et aider ce club, alors qu'ils avaient décidé de changer d'idée. Et je pense que c'est tout à leur honneur d'avoir changé, notamment au président et à d'autres, de se dire peut-être que oui, je me suis trompé, on est parti sur autre chose, ça ne correspond pas avec le club. Autant qu'on revienne à ce qu'on sait de faire et ce qui fonctionne. Et voilà, et ça montre, je trouve des fois, ça montre l'intelligence des gens de savoir se reconnaître ses erreurs, et on en fait tous, hein, donc, que ce soit les joueurs les premiers. Hein, donc, je pense que c'est important. Hein.
Ce que je constate, Arnaud, c'est que quand tu parles de Montpellier, tu as un grand sourire.
Oui, j'ai un grand sourire parce que c'est vraiment... déjà, je me suis senti bien, et c'est important, je pense, en tant que joueur. J'espère être quelqu'un d'assez droit, d'assez réglo. Je sais que je suis pas le meilleur joueur du monde, mais je sais que je suis pas le pire. Et je pense que je connais mes capacités, je connais ce que je peux amener. Et je pense que ce club avait cette qualité-là de se dire les choses et justement de pas avoir peur de parler et de dire franchement les choses, parce que je trouvais que c'était un club droit. Après, d'ailleurs, on s'est quitté en bons termes. Hein. C'est pas, je veux dire, ils auraient pu être plus embêtants, ils l'ont pas été. Après, qu'est-ce qui se passera dans le futur, j'en sais rien. Je peux pas le deviner. Maintenant, c'est un club aujourd'hui qui marque et dans une ville dans laquelle je me sentais bien, et nos enfants et ma femme, on se sentait bien aussi. Donc forcément, ça joue aussi. Après, c'est plus récent, et je continuerai de suivre ce qui est passé. Mais c'est vrai que de partir dans un moment où c'était dans le dur, ça m'a un peu embêté, parce que ce n'était pas ce que je voulais vraiment les laisser dans cette période-là. Quitte à changer, je préfère toujours changer quand le travail est fait. Au final, le travail a été fait par d'autres, et je suis content d'avoir de pas avoir été dans ce groupe qui aurait marqué le club en descendant en Ligue 2, alors que ce club ne le méritait pas du tout. Je dis pas que les autres clubs ils le méritent, mais en tout cas eux, ils ont tout mis en place. Je sais que ça a touché beaucoup le président et aussi les gens du club, que ce soit Bruno ou Michel Mézi aussi. Ça les touchait beaucoup parce que c'était, ils comprenaient pas en fait pourquoi avec autant de qualité dans ce groupe-là on n'arrivait pas à produire des choses. Donc voilà, maintenant je suis content et j'espère qu'ils feront une super bonne saison, une saison prochaine. Et moi j'ai encore des contacts, que ce soit avec Bruno Carotti ou même avec Michel, avec le président, on s'écrit de temps en temps pour souhaiter des bonnes choses et puis avoir des fois des échanges personnels.
Tu l'as évoqué, quand tu pars de Montpellier, il te reste 6 mois de contrat et quand tu dis qu'ils n'ont pas été embêtants, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réclamé d'indemnité de transfert quand tu as eu l'offre notamment de Chicago. Donc aujourd'hui, tu es aux États-Unis, tu es en MLS. Tu es né en 92. Tu as donc vu, parce qu'on en a parlé un petit peu avant qu'on lance l'enregistrement, mais moi, je suis un tout petit peu plus vieux que toi. Et donc, comme toi, j'étais marqué par les séries américaines. Alors, pas forcément les mêmes, puisque entre-temps, ça a évolué, etc. Mais... ouais, je vais dire des trucs tout bêtes, mais moi je me souviens de Rick Hunter, même des séries plus vieilles comme Hooker, les trucs comme ça. Enfin voilà, c'est des trucs qui ont marqué, etc. Il y a la musique américaine, le rap US qui a débarqué, qui a été vraiment une vague, etc. Même la bouffe en fait américaine aussi qui est arrivée. Voilà, on a eu vraiment. Alors faut pas le voir comme un truc négatif, une infiltration de la culture américaine qui arrivait en France, notamment pour les gens de notre génération, parce que même si on a un petit écart, on fait partie de la même génération. Est-ce que ça, c'est toujours quelque chose qui t'a attiré, toi, finalement ? Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves en MLS et tu as l'air d'y être très bien. Tout bête, mais est-ce que tu étais déjà allé en vacances aux États-Unis ou pas du tout ?
Ben justement, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, oui, je suis allé en vacances aux États-Unis. Ce qui est très frappant et très marquant aux États-Unis, c'est que tu as tous les joueurs en Europe qui, pendant leurs vacances, bon, la majorité essaye de partir aux États-Unis. Et la majorité des Américains, quand ils sont en vacances, ils viennent tous en Europe parce qu'en fait, ils aiment bien ce style de vie aussi, ils découvrent que ce soit la nourriture, le vin, tout ça. Et il ne faut pas penser qu'il n'y a que d'un côté que ça a marché, hein, l'américanisation au niveau de la bouffe ou de l'influence et tout, parce que tu as beaucoup de... Les Français, on est très... je ne sais pas si on les intrigue ou si nous apprécient beaucoup, mais tu vois dès qu'ils voient, ils disent toujours French croissant, baguette et tout. Pour eux, c'est... En fait, leur repère, c'est ça. T'es Français, c'est le croissant et la baguette, ça reste ça. Et bon, après, le vin et plein de choses. Mais tu les vois, tu vois pousser pas mal de pâtisseries avec beaucoup de boîtes de haute, des croissants, des pains au chocolat, comme on peut faire. Et c'est pas trop ce qu'ils mangent ici, mais ça reste quand même orienté vers ça. Après, l'influence, oui, forcément, moi, de ma période, même si elle existe encore maintenant un petit peu aussi, je pense, elle est peut-être différente, mais c'est vrai que tu as eu ce côté-là des États-Unis avec le basket, le sport même en général, hein, le sport, la musique, les fringues, les grands pantalons, les chaînes, les débardeurs, les maillots de basket. Et voilà, tu as eu tout ce côté-là qui était très, très sympa. Après, le problème de cette influence-là, c'est que tu es orienté que sur certaines villes, en fait. Je te prends un exemple, par exemple, Chicago, aujourd'hui, c'est pas connu du tout. Enfin, c'est pas la première destination où les gens vont aller, ce que je peux peut-être comprendre, et pourtant, c'est la troisième plus grande ville des États-Unis. Quand tu penses aux États-Unis, aujourd'hui, tu penses New York, Miami, Los Angeles. On va un peu résumer avec Orlando, peut-être par rapport à Disney. Mais...
Ou San Francisco de l'autre côté.
Un petit peu. Ouais. Mais je veux dire, tu as plein d'autres villes qui sont. Mais bon, comme c'est la même chose des Américains qui viennent en France, hein, ils vont te dire on va aller à Paris. On va aller peut-être à Nice, à Saint-Tropez, ou j'en sais rien. Et ils vont pas te dire je veux aller à Auxerre ou à Metz ou à Bordeaux. Si Bordeaux encore un peu, ils commencent à connaître parce qu'il y a le vin et tout. Donc c'est quand même. En tout cas, je veux dire, ça fonctionne dans les deux sens. Pour nous, on n'a pas l'influence sur le reste parce que je pense qu'ils sont quand même très tournés américains. Et puis ça reste, faut pas oublier, ça reste quand même des très bons businessmen aussi. Et ils savent très bien que ils t'ont amené de la. Bon, je prends l'exemple de la bouffe, mais ça a été très bien scénarisé. C'était bah, limite, t'avais l'impression que McDonald's, c'était le meilleur restaurant du monde à un moment donné quand ça arrivait. Alors qu'en fait, ça reste McDo, hein, c'est des burgers. Hein, c'est pas... Mais voilà, c'est un peu tourné comme ça et ça, c'est sympa, ouais, c'est sympa.
Pour ça, Chicago, c'est quand même la région des Grands Lacs.
C'est ça, ouais, avec Milwaukee et on est frontalier avec le Canada, en fait. Hein. Enfin, le lac nous sépare du Canada.
C'est ça. Juste pour préciser, quand même, le lac Michigan, c'est un dixième de la superficie de la France.
Fait une fois, 1,5 fois la Suisse, il fait. Bah nous, c'est presque la mer. On a presque on a l'impression d'avoir la mer, hein, quasiment. T'as des vagues et tout.
Je prenais l'exemple du lac Michigan comme point de départ, mais on dit souvent que les États-Unis, c'est un peu le pays de la démesure. En gros, les villes sont énormes, les buildings sont énormes, ton coca, il est énorme, tes lacs, ils sont énormes, tes champs, ils sont énormes. Ouais, c'est quelque chose que t'as constaté en arrivant ?
Ah oui. Tout est plus démesuré. Les routes, en pleine ville, t'as des quatre voies. parce que toi, tu as à peine sur l'autoroute, des fois, et encore pas tout le temps. Les buildings, bon, bah, ils sont tous grands. Bah, après, ils sont tous construits de la même façon. Les villes, tu as un grand downtown, un peu comme Paris à la Défense, mais en puissance 2 ou 3. Et après, autour, ça se développe. Même pour les tailles de vêtements, hein, tu as des tailles que tu ne trouveras jamais en France. Hein. Bon, après, ça va aussi avec le physique des Américains, ce qui n'est pas forcément non plus très bon. Mais oui, tout est le sport, les shows, c'est normal, en fait. C'est des choses qui te paraissent normales. Pour eux, il n'y a rien de... Il n'y a pas de limite, tu as l'impression, en fait. Par du principe que tu peux tout avoir, mais il faut que tu payes, en fait. Tout est réalisable, mais il faut payer. On est vraiment dans ce domaine-là. Hein. Ça reste quand même un pays très libéral aussi. Il ne faut pas se le cacher.
Tu habites à quel étage
J'habite au 32e étage et je ne suis pas le plus haut. Hein. Il y a des gens qui sont plus haut. Hein. Il y en a, je pense, ça va jusqu'à 56 ou 57, je crois.
C'est limite une ville dans la ville, quoi, l'immeuble. Tu as ta salle de sport, enfin, il y a la salle de sport.
Chaque building, tu as des aménicises, là, ce qu'ils appellent ça. C'est Nous, par exemple, on a la salle de sport, salle de yoga, une salle de billard pour recevoir des gens. Tu as dehors, tu as piscine extérieure, piscine intérieure. Et sur la piscine extérieure, tu as une terrasse. En fait, tu as plein de barbecues en libre service si tu veux faire des barbecues pour tout le monde, pour éviter de te les faire dans ton appartement. Et tu peux en plus privatiser une pièce et faire venir un chef si tu veux. Bon, là, il faut payer, mais pour recevoir vraiment, si tu veux faire des anniversaires ou des choses. Et en gros, dans chaque building, tu as potentiellement la salle de muscu, elle y est quasiment tout le temps. Après, ça dépend. Il y en a, ils ont des terrains de basket, il y en a, ils ont des terrains de squash.
Là, on parle un peu de ton arrivée aux États-Unis. Changer, passer de la France, même pas simplement de Montpellier, mais de la France aux États-Unis, de Montpellier à Chicago, c'est comme un gros changement. On ne parle pas souvent de l'influence que peut avoir le choix sportif sur le choix familial et inversement. Toi, quel équilibre tu as fait au moment de choisir Chicago? Tu avais d'autres offres pour aller ailleurs. Quel poids a eu le bien-être de ta famille, de tes enfants, etc.?
Bon, alors moi, c'est mon côté personnel. Je pense que chaque joueur, après, évalue en fonction de ce qu'il veut. Moi, forcément, d'avoir les enfants et ma femme à côté de moi, ça a joué aussi. Bon, même si là, c'est un peu plus difficile parce qu'elles ne le sont pas, mais c'est le temps d'adaptation qui était nécessaire. Enfin, il était prévu comme ça. De toute façon, on ne pouvait pas le changer, malheureusement. Il y a des sacrifices à faire qui ne sont pas simples, mais il fallait les faire parce qu'on avait des choses aussi en cours en France, notamment quand tu as ta femme qui travaille ou tes enfants qui vont à l'école. Après, moi, je savais que voilà, j'avais des enfants et une femme, je ne voulais pas partir dans un endroit où pour l'éducation des enfants, ça allait être compliqué. Je me suis dit, écoute, on s'est posé avec ma femme aussi, on s'est dit, regarde, elles ont la chance. Quel est le meilleur moyen aujourd'hui de peut-être les faire parler anglais ou d'avoir des langues que de vivre dans un pays où tu vas avoir que ça, en fait. On va être entouré de gens qui parlent que anglais. Aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure expérience pour des enfants. On va essayer de les aider au mieux avec l'école, mais c'est vrai que nous, on s'est dit aussi que pour le futur, ça pouvait les aider. Enfin, je veux dire, t'as plein de gens qui rêvent quand même d'aller aux États-Unis aussi. Il faut pas se le cacher. On revient un peu à ce qu'on se disait avant de commencer le live. J'ai la chance d'avoir un métier qui peut te faire voyager dans plein de destinations différentes. Bah, aujourd'hui, il faut en profiter. Il faut essayer d'en tirer le maximum et de tirer le maximum du positif de chaque endroit où tu vas aller dans le monde.
Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont vraiment surpris ou t'as du mal, peut-être encore du mal à l'heure actuelle, à t'habituer, je sais pas, ça peut être sur la taille de la ville, les transports, les déplacements avec l'équipe.
Alors non, je commence à prendre mes marques petit à petit parce que ça va, maintenant ça va faire un petit moment que je suis là, donc tu prends tes marques.
Ça fait 6 mois, hein, c'est ça?
Ouais, à peu près, plus ou moins, ouais, c'est un peu ça. Je t'adapte aussi vite, hein, on va pas se mentir. Hein. Après, une fois que tu as ton rythme, entraînement, rentrée, match, déplacement. Aujourd'hui, encore, l'adaptation, c'est les déplacements, peut-être, parce que c'est des gros déplacements aux États-Unis. Hein. Le minimum en termes de voyage, c'est 2h30, tu fais pas moins. Et bon, bah, je te parle pas, tu fais rien en bus ou ça, hein, tu fais tout en avion, hein, tout est en avion. Ouais, aujourd'hui, je dirais que c'est ça, je pense que c'est les déplacements le plus long. Après, et la bouffe, parce que la bouffe, il faut s'adapter, c'est pas du tout de la même façon qu'en France, il faut faire attention. Si tu fais pas attention, tu grossis un peu plus vite, ils ont pas les mêmes. Enfin, pour un exemple, si tu cherches du bio, c'est pas le même bio qu'en France, c'est pas les mêmes attentes et tout. Donc, il faut faire un peu attention à ça, mais sinon un peu, tu t'y habitues.
D'ailleurs, puisqu'on parlait de bouffe, avant qu'on enregistre, donc, tu m'expliquais un peu les différences dans les habitudes, en tout cas dans les autorisations que vous avez.
Oui, c'est un peu différent. Souvent, quand tu pars en déplacement, notamment sur des road trips, ils te laissent aller manger à l'extérieur tout seul ou avec des joueurs. Bah, souvent, tu vas avec des joueurs. Ça existe, je crois, en basket, hein, déjà en NBA, où tu as le club qui, enfin, c'est pas le club, en gros, c'est la NBA, normalement, qui donne une partie d'argent pour dépenser. Et en gros, pour que tu peux aller manger dehors avec tes joueurs, avec des potes, ça les choque pas en fait. Hein. Tu peux aller au restaurant, même 2 jours avant le match, ça les dérange pas. Tu choisis ce que tu manges tant que t'es retour à l'heure et que tu fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de souci.
Je sais plus si tu m'as dit, c'est un ou une nutritionniste qui vous avait envoyé une liste, ouais, de restaurants.
Ouais, alors après, la personne souvent qui s'occupe. Alors soit c'est la nutritionniste, soit sinon ça va être ce que tu peux avoir dans tous les clubs, quelqu'un qui gère au quotidien le club, qui va t'envoyer des restaurants pas très loin, parce que pour chaque déplacement, en fait, nous on est en plein centre-ville, hein, à chaque fois, plus ou moins. on est dans downtown à chaque fois pour éviter d'avoir trop de déplacements à faire. Donc, tu as plein de restaurants autour, si tu veux, pour justement pour que tu puisses aller manger. Ou...
Et donc, tu peux te retrouver à 48 heures d'un match à manger un burger, par exemple. Ou, alors, sans exagérer, non, mais je veux dire, c'est possible. Après, c'est à toi de gérer.
C'est possible. Après, c'est toi qui gères. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de manger une pizza, 48 heures d'un match, tu peux manger une pizza. Ouais.
Vous êtes vachement plus responsabilisé, en fait, c'est ça?
Voilà, c'est ça, ouais. Tu es plus responsabilisé.
Le début de saison se passe très bien pour toi. Tu es titulaire à Chicago. 18 des 19 matchs joués en championnat. 3 passes décisives. À quel point le jeu est différent? Alors, je te le disais en amont, c'est que moi, je suis un petit peu la MLS. Moi, le premier adjectif qui me vient quand je vois un match de MLS, c'est débridé. C'est qu'en gros, il n'y a pas de phase d'attente, tu vois, ou de...
C'est un peu ça. C'est des matchs très ouverts, très... parce qu'ils sont dans le spectacle. Et un 0-0 aux États-Unis, ça ne leur plaît pas. Et je pense qu'ils sont tournés de cette façon-là. Et je pense que même si ça essaye un petit peu de changer avec des équipes qui essayent d'avoir de la possession que ce que tu peux avoir un peu en Europe, ce qu'ils n'ont pas trop ici, ça reste quand même des matchs très ouverts, très débridés. Ça part dans tous les sens. Tu as beaucoup d'attaques rapides, beaucoup de transitions, très peu de longues possessions avec une action qui se finit. Ça arrive, hein. Je ne dis pas que ça arrive pas, mais c'est quand même, ça reste quand même très rare parce que tu as beaucoup de joueurs. Déjà, tu as très peu d'Européens, tu as beaucoup de Sud-Américains ou d'Américains, déjà, de base. Et c'est un championnat qui est très ouvert et qui est beaucoup tourné sur le spectacle, en fait.
D'où le besoin d'être en forme.
D'où le besoin d'être en forme. Moi, physiquement, il faut le tenir. Parce que c'est pas un championnat. On a une très mauvaise image, je pense, en Europe. On se dit que c'est un peu la retraite. Ils ont très vite tourné. Il y a très peu, maintenant, d'anciens joueurs. Bon, là, récemment, ils ont fait un top joueur qui va leur apporter beaucoup de choses. Mais c'est un championnat où ça court beaucoup, où il faut quand même beaucoup... Il faut être en forme physique et être prêt à enchaîner les matchs et les déplacements et plein de choses.
Non, mais c'est intéressant parce que l'image de la retraite, finalement, on a ça, mais c'est eux qui ont aussi amené ça parce qu'ils prenaient que des joueurs ou beaucoup de joueurs en fin de carrière. C'est comme ça qu'ils ont voulu aussi faire monter au départ la réputation de la MLS ou en tout cas de montrer que c'était aussi du football, du soccer. Mais maintenant, ils ont compris que dans l'axe de développement, il fallait se rapprocher sans doute un peu plus des autres sports US, donc rajeunir aussi un peu les rosters. Enfin, je veux dire, en NBA, tu ne peux pas avoir que des mecs de 35 et 36 ans. Sinon, tes équipes, c'est compliqué, en fait.
C'est surtout pour l'image de la Ligue, avec la Coupe du Monde qui va arriver aussi. Je pense qu'ils ont dit, bon, alors, on a commencé à faire connaître la Ligue par des joueurs un petit peu plus anciens, des stars. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas mieux de la tourner vers... déjà pour faire du business aussi, parce qu'ils ont compris qu'avec les jeunes, ils peuvent les revendre et avoir gagner de l'argent. Mais aussi, peut-être se dire, il faut qu'on soit un peu plus compétitif pour attirer les joueurs, parce qu'on ne peut pas avoir que des anciens ou des noms. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on se tourne vers le championnat. Et je pense que la Coupe du Monde, forcément, et un objectif et leur permet aussi de faire de la pub sur ce qui va se passer.
Tu le disais, les franchises recrutent pas mal de joueurs sud-américains, donc brésiliens, uruguayens, argentins essentiellement. C'est vraiment les trois nationalités-là, je trouve, qui sont plus...
représentées.
Nombreuses, ouais, plus représentées, exactement. Des jeunes joueurs américains aussi qui commencent à être formés, et tu le disais, hein, qui commencent à partir beaucoup en Bundesliga, pour le coup. On voit par exemple un Ricardo Pepi, qui est une des... comme son nom l'indique, pépite du foot américain, et qui aujourd'hui se retrouve au PSV Eindhoven, et qui, je pense, est vraiment une recrue intéressante à ce niveau-là, ou qui était à Augsbourg avant en Bundesliga, etc. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont déjà marqué sur ce début de saison, les 18 premiers matchs que tu as fait en MLS?
Oui, alors je t'ai dit, on a joué donc pas mal de numéro 10 qui étaient très bons. T'as le petit Almada d'Atlanta, t'as Mukhtar de Nashville. T'as beaucoup d'offensifs hein, quand même, parce que c'est des Américains, ils veulent du spectacle, ils veulent des buts et tout. Forcément, ils sont quand même très, très tournés vers ça et ils adorent qu'il y ait des buts comme ça. Donc, t'as aussi des joueurs, pas mal de numéro 10 qui sont Jalarian, Acosta. Ça reste beaucoup des joueurs qui sont quand même très recherchés et qui vont faire la différence, en fait, qui t'amènent le petit plus.
Ouais, qui sont très techniques, souvent les joueurs les plus techniques hein, qui sont aussi les plus chers. Et ça, c'est quel que soit le championnat, c'est un peu pareil, mais t'es un des plus vieux de l'effectif, mon cher Arnaud, même si tu n'as que 31 ans, ce qui n'est pas non plus extrêmement vieux. Est-ce qu'on t'a parlé de la nécessité d'encadrer les plus jeunes joueurs de Chicago à ton arrivée? On sait qu'il y a quelques joueurs d'expérience dans cet effectif, comme toi, Shaqiri, par exemple, celui qui est plus connu avec toi, notamment en France, en Europe. Est-ce que ça faisait partie un peu de la feuille de route qu'on t'a dressée?
Alors, ce n'est pas forcément la feuille de route qu'on m'a dressée, mais je sais que je suis rentré aussi dans la MLS et dans cet effectif parce qu'ils avaient besoin de genre d'expérience pour encadrer justement cette jeunesse, entre guillemets, on va dire, à venir. Après, aujourd'hui, c'est difficile en MLS hein, de rentrer quand tu as plus de 29 ans parce qu'ils cherchent beaucoup de jeunes, notamment ce qu'on évoquait plus tôt. Et souvent, ils ont besoin de genre un peu plus d'expérience pour construire des effectifs capables de se lutter assez plus régulièrement, on va dire, avec les playoffs ou avec des joueurs qui ont connu le haut niveau. Donc, du coup, c'est pour ça que souvent que tu peux avoir des joueurs de 30 ans qui vont entrer, mais qui auront une expérience assez importante quand même à haut niveau dans le championnat où ils arrivent, quoi, notamment en Europe.
Et on voit aussi des joueurs qui arrivent avec un certain montant des attentes et puis qui partent ensuite vers l'Europe. Donc, tu as aussi, quand même, il commence à avoir une logique d'économie de mercato, en fait, qui commence à se créer aussi aux États-Unis. Quand je vois, par exemple, Brenner, qui était à Cincinnati, je crois, et qui va être à l'Udinese dès l'année prochaine, voilà, il y a aussi une logique de bah, on prend des jeunes, on les fait progresser et on les revend derrière. Ça participe aussi au business et à l'économie de la MLS.
C'est parce qu'en fait, je pense que les propriétaires, ils ont commencé à comprendre grâce aux directeurs sportifs, ça, qu'ils peuvent gagner de l'argent, notamment en formant des joueurs. Aujourd'hui, le problème numéro un des États-Unis, c'est qu'en termes d'académie, ils n'ont pas des grosses académies comme on peut nous avoir en Europe. C'est encore un système qui n'est pas trop développé ici. Et pourtant, avec la taille du pays, le vivier que tu peux avoir, je pense que tu peux sortir des joueurs assez facilement. Parce qu'il doit y en avoir quand même, hein, il suffit de bien les former. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème numéro un, il est là, et c'est pour ça que là, ils sont en train de se tourner vers ça et de comprendre que peut-être en sortant des jeunes ou en achetant des jeunes, et après, ils peuvent potentiellement les revendre pour plus tard, quoi.
Puisqu'on parle de jeunes, je suis depuis un peu plus d'un an un jeune joueur de l'effectif de Chicago, et je veux bien ton avis, Brian Gutierrez, milieu de terrain qui a 20 ans. Donc, alors, je dis jeune, 20 ans c'est jeune, mais on s'attend toujours à 17 ans, 16 ans, etc. Faut pas exagérer. Qu'est-ce que ça donne, Brian Gutierrez?
Un très bon joueur, très très bon joueur. Bah, lui, tu vois, potentiellement, ça peut être un des prochains joueurs à aller en Europe, je pense, si ça se passe bien. Après, faut qu'il ait l'envie d'y aller. Mais c'est un très bon joueur, hein, doué avec le ballon, très bon dans la passe. Faudrait peut-être qu'il mette un peu plus de buts, ça pourrait être top, mais déjà pour ce qu'il fait, dans l'effectif dans lequel il est, je trouve que c'est un excellent joueur techniquement, assez costaud même par rapport au choc et même à l'intensité des matchs. Mais aujourd'hui, oui, ça reste un joueur de qualité qui, je crois, il a 6 ou 7 passes décisives, je crois de mémoire. Peut-être 6 ou peut-être 7, je ne sais plus. Bon, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal pour une demi-saison. On est déjà sur des stats qui sont très corrects pour un joueur de 20 ans.
Tout à l'heure, on parlait du fait que tu étais beaucoup plus responsabilisé dans ton approche hors terrain, finalement. La différence de mentalité entre la France et les États-Unis, c'est une question que je pose à chaque fois que j'ai une personne de MLS, j'ai eu des éducateurs, j'ai eu Rémi Walter, on va en parler. C'est quelque chose qui me marque assez quand même, la différence de mentalité. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué au-delà de cette volonté de vous responsabiliser alors, ça peut être au niveau du terrain, hein, des entraînements, je ne sais pas, de la vie du club, mais aussi à côté même, dans la vie quotidienne.
Non, bah, il voit que je pense que... Bodja, il remarque que tactiquement, tu es quand même mieux armé qu'eux sur la compréhension de la tactique, sur comment te positionner sur le terrain. Parce que souvent, en fait, on va dire, si tu veux, ce championnat, il est physique, pas dans le sens. Parce que l'Angleterre, c'est un championnat physique, par exemple, et c'est pas dans ce style-là. C'est que ça demande du rythme, parce que souvent, ils sont soit mal placés, soit ils veulent ouvrir le jeu. Et donc, du coup, ils se retrouvent face à des joueurs, des fois, qui ont un peu plus d'expérience ou qui viennent d'Europe, par exemple, qui savent mieux se placer et qui courent peut-être un peu moins. Et eux, pour compenser ce fait-là, eh bien, ils courent beaucoup plus, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est plus ça. Après, tu vois que le coach, il sait que quand il a un joueur d'Europe, il sait que techniquement et tactiquement, il a un mec en face de lui qui est capable de réaliser quasiment tout ce qu'il va lui demander. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un petit peu plus difficile. Il faut que ces joueurs-là, ils tendent vers ça. Et donc, c'est pour ça que c'est à nous d'essayer au quotidien d'être performants pour leur montrer que l'exigence, on va dire, professionnelle, elle est là, quoi.
Lors du dernier match de championnat, si je ne me trompe pas, là, on enregistre le 30 juin. Donc, heure française, dans un peu moins de 48 heures, tu vas jouer contre Orlando avec le fameux, puisqu'on parlait de jeunes joueurs intéressants ou de joueurs intéressants, Facundo Torres, qui est vraiment un super joueur. Lors du dernier match, vous avez joué Kansas, si je ne dis pas de bêtises. Tu as retrouvé un certain Rémi Walter, qui joue à Kansas City, qui était invité de ce podcast, qui m'avait d'ailleurs recommandé de t'inviter à la fin de l'épisode. Puis je m'étais dit, oh, je vais attendre un petit peu. Puis quand j'ai vu que tu arrives en MLS, je me suis dit, tiens, parfait. On va attendre un peu qu'il s'installe tranquillement et puis on va faire un épisode avec Arnaud. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger, alors pas forcément à l'occasion de ce match-là, mais en dehors, sur l'expérience que vous étiez en train de vivre, vous, les deux anciens de Ligue 1 en MLS?
Pour te dire, vu que nous, on était en road trip, on est allé manger au restaurant, du coup, ensemble. Donc, on a pu discuter, on se remémorer un petit peu les bons moments à Nice, ou ce qu'on a vécu. Et bon, lui, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il est là que moi. Hein, ça va faire 3 ans maintenant, quasiment. Donc, eux, ils se sentent super bien. Hein, ils commencent à avoir une carrière aussi là-bas. Lui, c'est un joueur régulier de son effectif. Il joue quasiment tous les matchs. Donc, ça reste une bonne base, hein, aujourd'hui, c'est que c'est des joueurs qui sont confirmés. Donc eux, ils sont très bien et je suis pas sûr qu'il ait très envie de revenir en Europe incessamment sous peu parce que voilà, ils aiment bien leur vie, ils aiment bien la ville où ils sont, ils aiment bien le club et aujourd'hui ils sont heureux là-bas et c'est bien de voir ça parce qu'au final ça reste quand même l'objectif aussi, c'est que quand tu pars, tu puisses être heureux dans l'endroit où t'es quand même. Donc je suis content pour lui et ça m'a fait plaisir de les revoir et de jouer contre lui. Donc,
Et de gagner contre lui.
Et de gagner en plus. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec lui, c'est des personnels. de gagner. Oui, non, nous, c'était bien. Ça nous faisait deux victoires d'affilée à l'extérieur. Donc, c'était bien parce qu'il faut recontextualiser. Déjà, gagner à l'extérieur, c'est dur, même en Europe. Mais ici, ça reste compliqué parce que tu as les voyages, tu as souvent les décalages horaires, tu as les températures qui sont différentes selon où tu vas et tout. Donc,
ça a été dur, ça, à gérer au départ, les voyages et les...
Ouais, les voyages, c'est compliqué parce que, bah, par exemple, là, tu vois, on va à Orlando. On a pris une heure en plus, en fait, par rapport à l'heure de Chicago. Donc, en soi, c'est pas énorme. C'est pas très violent. Mais par exemple, là, quand on était avant d'aller à Kansas, on est allé à Portland. Portland, il y avait deux heures de moins. Donc là, déjà, tu commences à avoir un peu plus... de décalage, et en fait il faut que ton corps il s'habitue tout simplement. Donc, tu sens que tu es un peu plus fatigué des fois, ou quand tu, à la fin de la semaine quand tu rentres, tu sens que voilà, tu as un peu plus voyagé et que c'est un petit peu plus difficile. Mais par exemple en mars on allait jouer à Miami, il faisait 28 degrés, et en fait nous à Chicago quand on est rentré il faisait moins 4 quoi. Donc tu prends 30 degrés dans la tête. Nous il y avait la neige et eux il y avait le soleil quoi. Donc on en rigole, mais sur un déplacement ça te fait bizarre.
Ouais, il faut clairement que le corps s'habitue pour le coup. C'est en ça effectivement que gagner à l'extérieur devient une vraie performance. Sur les longues distances pour le coup, ou quand tu vas à Los Angeles où tu as encore plus de décalage ou ce genre de trucs là. On arrive au bout de l'entretien, Arnaud, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Je vous demande une recommandation d'invité, quelqu'un que tu aimerais entendre à mon micro dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
J'aimerais bien entendre Pierre Lesmélou de Brest, parce que je pense que lui aussi pour le coup il a une carrière assez atypique et ça peut rester dans le même profil. Donc je pense que ça peut être un bon invité.
Alors, de tête, je sais qu'il a joué à Dijon. Est-ce que vous étiez ensemble à Dijon ?
Ouais, on a joué ensemble à Dijon. Ouais. On a joué ensemble à Dijon et on a joué ensemble à Nice.
Bien sûr, à ça, à Nice, oui, j'avais tout à fait souvenir. Mais à Dijon, j'étais plus sûr de la période Dijon qui s'était fait une spécialité d'ailleurs de...
De recruter des joueurs amateurs.
Exactement. Ouais, parce qu'il y avait aussi Eric Botteac, je crois, de mémoire.
Ouais, alors ça, c'est plus vieux. Moi, j'ai pas joué avec. Mais ouais.
Mais il y avait quand même pas mal de joueurs qui venaient de CFA ou de National. Et...
Loïs Diony.
Comme quoi, on peut trouver de la qualité. C'est aussi, c'est un message hein, pour tous les joueurs de National ou de CFA qui se disent, quel que soit l'âge hein, d'ailleurs aussi, hein, il n'y a pas besoin d'avoir que 22 ans pour ça. Mais, et d'ailleurs, hein, on a de plus en plus de clubs qui se tournent vers les... De clubs de Ligue 1, je parle, qui se tournent aussi vers les... Alors maintenant, ça a changé, on va plus les appeler CFA, mais vers les National, N2, N3, etc. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de qualité. Ouais.
Tu as des joueurs qui sont passés par des centres de formation et qui n'ont pas été gardés, ou pour X raisons, à une certaine période, c'est difficile, et il y a de la qualité dans les championnats du Sud.
Mon cher Arnaud, je te remercie pour ta disponibilité, ton temps, pour cet entretien, pour ce temps libre passé en ma compagnie. Je vais te souhaiter une bonne fin de saison à Chicago, une bonne soixantaine de matchs maintenant, avant d'avoir une qualif en play-off. On s'était dit que c'était quand même un bel objectif à atteindre, pour avoir quelque chose de très excitant à la fin, puisqu'on sait que comme dans tous les sports US, hein, il y a la saison régulière, c'est sympa. Mais quand démarrent les playoffs, et c'est un autre délire. Merci Arnaud, bonne continuation et à très bientôt. Ciao, ciao.
Ouais, merci, au revoir.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.